7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la vie quotidienne en Iran. Au lendemain des commémorations officielles des 40 ans de la révolution en Iran, nous donnons la parole au journaliste franco-iranien Armin Arefi. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient pour l'hebdomadaire Le Point. Également avec nous Thierry Coville, économiste spécialiste de l'Iran à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. L'Iris, bonjour Thierry Coville.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous allez nous expliquer quelles sont les conséquences concrètes, notamment du retour des sanctions américaines sur la vie quotidienne des Iraniens et ce qu'on appelle traditionnellement le panier de la ménagère notamment. Alors où en est cette société ? Très jeune, 70% de la population a moins de 35 ans, très urbanisée, très éduquée. Trop éduqué pour les besoins d'une économie qui tourne au ralenti, surtout depuis donc le retour des sanctions américaines. Et une société qui se modernise peut-être trop vite aussi pour le pouvoir en place. Voilà toutes les questions qu'on va se poser. Nous allons évoquer bien sûr les droits des femmes dans un pays où le sport national est le contournement des règles, mais aussi les rêves de départ qui habitent les jeunes dans un pays pourtant si riche. Nous entendrons également le témoignage de Souderad, militante iranienne exilée à Paris. Elle milite pour les droits des femmes et des minorités sexuelles LGBT. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux pour ses discussions sur la sexualité dans un pays où l'éducation sexuelle est encore tabou. Et quant à vous, les voisins, bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions sur notre numéro WhatsApp 33 1 84 22 71 71 qui reçoit aussi vos messages audio. Écoutez cet auditeur qui a posté hier de son pays, l'Iran. Nous avons modifié sa voix à sa demande.
Bonjour 7 milliards de voisins et voisines. D'abord, je dois vous remercier pour consacrer cette émission de 7 milliards de voisins à l'Iran. S'il vous plaît, ne mentionnez pas mon nom. Ici en Iran, il n'y a aucun droit de l'homme, particulièrement droit de femme. En revanche, il y a beaucoup d'injustices, discrimination, violence contre la femme. Ici, l'Iran et les Iraniens sont occupés par le mollah. Le turban blanc et noir. Ici, les femmes ne peuvent pas même entrer dans le stade pour regarder un match de foot. C'est horrible, n'est-ce pas? Ici, il n'y a aucun espoir, aucune lumière. Ici, tout est sombre et noir. Ici, il n'y a aucun air pour respirer. Ici, la situation économique est très mauvaise et la plupart du peuple ne peut pas acheter leur besoin quotidien. À la fin, j'ai un message pour tout le gouvernement du monde. À l'aide, s'il vous plaît. Soyez avec nous, pas avec Mollah. Merci.
Armin Arefi et Thierry Coville. Alors un message d'un auditeur iranien très à la fois poétique, désespéré, mais dans le fond très politique. Est-ce que la situation est si critique pour les Iraniens, Armin Arefi?
Tout d'abord, je salue le courage de cet auditeur qui a osé témoigner, même si bon, sa demande, son nom, sa voix a été modifiée. Je pense que ça témoigne du désespoir actuel de la population iranienne, notamment d'un point de vue économique. Moi, c'est ce que j'ai remarqué les dernières fois que je me suis rendu en Iran, c'est-à-dire que l'impossibilité pour de s'acheter les produits de base en raison de la situation de mauvaise gestion de l'économie par le gouvernement, mais également des sanctions américaines. Après, c'est vrai qu'il y a un véritable tableau d'eau noir qui est dressé par cet auditeur, je le comprends, il vit en Iran, il ne peut pas en sortir, mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul et qu'un Français se rend en République islamique, on se rend compte quand même que c'est un pays, une société beaucoup plus moderne que beaucoup de peuples dans la région, par exemple les pays pétromonarchies arabes, où les femmes n'ont peut-être pas autant de droits qu'en France, mais que grâce justement à leur persévérance, à leur combat depuis plus d'un siècle, elles accèdent à certaines choses qui leur étaient interdites. Et j'en veux pour preuve, par exemple, la couverture de mon livre, où on voit justement trois Iraniennes tout sourire. C'est une photo qui a été prise en novembre dernier dans un stade de football. Nulle part n'est stipulé dans la loi, dans la constitution iranienne, que les stades sont interdits aux femmes. Malheureusement, les mollahs leur refusaient cet accès parce que selon elles, le climat n'est pas favorable. À force de persévérance, certaines se sont déguisées en garçons et puis à force de pousser, notamment vis-à-vis des résultats positifs de l'Iran en Coupe du Monde, elles ont réussi à briser ce tabou. Donc on a quand même effectivement un désespoir actuel.
Donc les femmes sont partiellement admises dans les stades de foot à l'heure actuelle ?
Elles sont partiellement admises, mais grâce à leur combat, encore une fois, c'est la société justement qui bouge, la société qui va de l'avant face à des lois qui restent rétrogrades. Mais effectivement, il faut quand même prendre un peu de recul depuis Paris, j'entends, et je comprends tout à fait la détresse de ce monsieur, et se rendre compte quand même que la société iranienne, grâce à son courage, grâce à sa modernité, est beaucoup plus, par exemple, en avance qu'un dans un pays comme l'Arabie Saoudite.
Vous disiez tout à l'heure, je salue le courage de cet auditeur. Concrètement, on risque quoi en envoyant un message WhatsApp de ce type, quand on est iranien ?
Alors, c'est là tout le problème. Officiellement, en Iran, notamment depuis, on va dire, une dizaine d'années, il est interdit discuter avec la presse étrangère. Certains Iraniens, y compris sur les réseaux sociaux, ont été arrêtés et condamnés pour ça, pour mise en danger de la sécurité nationale. Maintenant, il faut savoir qu'en Iran, et moi c'est ce qui m'a frappé, ce que je raconte dans le livre, les gens sont extrêmement connectés, qu'ils ont tous accès à la 4G, qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, même les classes les plus défavorisées, des smartphones de toutes sortes de marques, comme ici nous en France, mais qui leur permettent d'accéder à certains interdits d'il y a à peine 10 ans, que nous avons en France, mais qu'il y a 10 ans étaient complètement interdits. Par exemple, la libre circulation de l'information via des applications comme WhatsApp, comme Telegram. Par exemple, la possibilité pour tout un chacun en Iran de draguer avant le mariage, ce qui est formellement interdit, et tout un tas justement d'activités en fait, de loisirs que l'on retrouve en France, mais qui en Iran sont officiellement interdits. Il y a des sites qui sont censurés, mais les Iraniens, comme vous l'avez dit très justement au début de notre émission, sont passés maîtres dans l'art du détournement, et cela fait maintenant 40 ans.
Notamment sur Internet via le réseau privé virtuel VPN.
Non, c'est oui, grâce justement à une application VPN qui leur permet justement de se connecter à des sites en utilisant des adresses de l'étranger.
Thierry Coville, cet auditeur faisait allusion à la situation économique. Quelles sont les conséquences du retour des sanctions américaines sur l'économie, sur la vie des Iraniens? Est-ce qu'on peut déjà les mesurer depuis le retour des sanctions, notamment en novembre dernier?
Je pense que ça traduit cette intervention de cet auditeur, cette auditrice, je ne sais pas.
Auditeur.
Ouais, se traduit bien, je pense qu'il y a eu... Et moi, je suis allé en Iran 3-4 fois, là, depuis justement l'annonce de Trump de sortir de l'accord sur le nucléaire. Je pense qu'il y a à la fois un choc psychologique et un choc économique. Ça m'a beaucoup frappé. Moi, j'y suis allé en mai 2018. Et alors que j'y suis allé, je crois que c'était juste après l'annonce de Trump. Et là, on sentait... Bon, les Iraniens sont plutôt fiers dans l'ensemble. Et ils ne sont pas du genre, notamment, c'était une conférence, ils ne sont pas du genre à montrer leurs émotions comme ça. Mais on sentait l'abattement. Donc dès c'était quelques jours.
Ça y est, ça recommence finalement.
Il y avait
puisque
un genre, tout ce qu'on
avait
soulevé, ils vont discuter avec les gens et dire c'est presque un cauchemar. Après avoir. Parce qu'il faut voir, si vous voulez, il faut voir d'où vient l'Iran. Donc l'Iran est sous sanctions depuis longtemps. Mais il y a eu des sanctions encore plus fortes qu'avant. À la période 2010-2012 déjà, où l'Iran n'exportait plus que 50% de son pétrole. La situation économique était catastrophique avec une récession en 2012, l'inflation qui a atteint 40-50%. Politiquement, il y avait 100 milliards de problèmes avec Ahmadinejad, effectivement une répression qui était dure à l'époque. Je sais qu'il y a même un économiste très connu qui s'était retrouvé en prison, la moindre critique était dangereuse. Donc, Rouhani est élu avec l'immense espoir de sortir le pays de cette crise par la négociation. Il le fait quand même, il le fait. Il y a cet accord qui est signé en juillet 2015, qui est respecté scrupuleusement. Enfin voilà, c'est pas moi qui le dis. Et donc, sinon, ce que je veux dire par là, si vous voulez,
c'est que... Levé des sanctions économiques en 2016, et là on a 13% de croissance en Iran,
voilà,
donc ça va mieux,
il y a un souffle
économique.
Alors je pense qu'avant les faits, parce que c'est toujours difficile en économie, c'est la perception et la réalité. Je pense qu'en Iran, il y avait même de la déception. Moi, en tant qu'économiste, ça allait mieux depuis 2016. Il y a eu une croissance de 13%. Les gens ne l'ont pas vu dans la vie. Donc, ils disaient, bon, le gouvernement nous promet beaucoup de choses, on ne voit rien. Mais il y avait ce sentiment que, bon, OK, ça va venir avec le temps.
Les gens ne le voient pas parce qu'il y a toujours ce chômage endémique, Armin Arifi.
Les gens ne le voient pas surtout parce que...
12-13%, 27% pour les jeunes,
oui,
de chômage.
Oui, parce que Rouhani est arrivé après deux mandats d'Ahmadinejad, qui, au départ, justement, a dilapidé une grande partie justement du budget vers les classes les plus populaires, celles qu'il ne connaissait, celles qui l'avaient élu, celles à qui il avait promis de ramener l'argent du pétrole à leur table, et que ce gouvernement s'est vite retrouvé en faillite, sans compter tout l'argent et les prébendes qui ont été accordés aux gardiens de la Révolution, cette armée paramilitaire, mais également aux proches d'Ahmadinejad. Il y a eu beaucoup de ses proches, parmi ses plus proches conseillers, qui ont été arrêtés, mis en prison, en raison justement de grands cas de corruption qui ont été révélés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ahmadinejad n'est plus en odeur de sainteté chez les Mollahs, alors que ce sont les Mollahs qui l'avaient porté au pouvoir. Mais pour revenir justement à la situation économique, Rouhani, qui est un pragmatique, que certains appellent comme modéré, en tout cas le plus modéré que d'autres ultra-conservateurs en Iran, il est venu récupérer un pays qui était au bord de la faillite, un pays en raison d'une sanctions étrangères, en raison avant l'accord sur le nucléaire iranien et des sanctions qui frappaient l'Iran. Il est revenu reprendre en main un pays justement qui était ruiné par Ahmadinejad. Donc forcément, les Iraniens avaient beaucoup d'attentes qui n'allaient pas se réaliser tout de suite. Le souci, c'est qu'il faut du temps, il fallait du temps. Et que même après la signature de l'accord sur le nucléaire, il y a eu levée des sanctions, comme vous le dites si bien. Sauf que il ne faut pas oublier que même avant Trump, sous Obama, Obama a levé certaines sanctions, mais les banques internationales étaient dans l'impossibilité d'accompagner des entreprises qui souhaitaient investir en Iran en raison des menaces des sanctions extraterritoriales du ministère américain du Trésor. Il ne faut pas oublier que BNP Paribas s'est fait quand même... a eu une amende de 8 milliards d'euros, si je ne m'abuse. Donc, l'économie, les entreprises étrangères n'étaient pas revenues. Elles se bousculaient au portillon, mais les véritables projets n'étaient pas encore mis en place.
J'aimerais qu'on essaye d'expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que ça implique pour la vie quotidienne des Iraniens, pour ce qu'on appellerait la classe moyenne. On a grosso modo 700 000 à 800 000 personnes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Qu'est-ce que le retour des sanctions américaines va impliquer, oui, à la fois sur le panier de la ménagère, sur l'inflation, oui, et sur le marché de l'emploi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Si vous voulez, c'est assez simple. Enfin, c'est simple. Dans sa brutalité, c'est simple. C'est que l'économie iranienne est tombée en récession. Donc ça veut dire que l'activité baisse. Donc l'activité va baisser. Il y aura moins d'activité économique. Donc déjà en 2018 et en 2019, d'après le FMI. Donc moins d'activité économique, c'est moins d'emplois.
Donc on a moins de recettes fiscales.
Alors déjà, sur le plan de votre question sur le chômage, il y a déjà un gros problème depuis longtemps. C'est que l'économie iranienne est incapable, en situation normale, sans sanctions, enfin avant les sanctions, le retour des sanctions américaines, de générer ces postes, déjà pour pas que le chômage augmente. Parce que chaque année... du fait des conditions démographiques, vous avez 900 000 nouveaux, notamment jeunes diplômés, qui arrivent sur le marché du travail. L'économie iranienne est absolument...
Dont la moitié sont diplômés. Donc ça veut dire quoi?
Il y a 900 000 nouveaux diplômés. L'Iran, il y a 5 à 6% de la population iranienne qui fait des études. Donc vous avez 900 000 nouveaux diplômés, master plus doctorat, chaque année en Iran. Ces gens-là ne trouvent pas de boulot. Et donc ils sont obligés de... Bon, à chaque fois qu'on va en Iran... On voit ça partout,
quoi,
de faire des petits boulots.
Chauffeur
de taxi dans les grandes villes, mais dans les petites villes, là où ça a manifesté, c'est compliqué de faire chauffeur de taxi. Donc il y a la nouvelle application, là.
Snap.
Uber, enfin je crois
Uber iranien.
La version iranienne.
Donc voilà, ça veut dire déception, crispation, colère.
C'est quand même étonnant justement de voir.
Moi j'ai pris
Snap personne. Et c'est ça, je pense que c'est un très bon exemple pour parler de l'Iran aujourd'hui. Snap, quand je suis arrivé en Iran du jour au lendemain sans m'y attendre en 2016. Mes amis me parlent de cette application moderne qui permet justement de se déplacer à moindre coût. Personne ne la connaît véritablement à ce moment-là. Un an plus tard, cette application, donc Snap, qui est la version iranienne d'Uber, Uber n'ayant pas droit de citer en Iran, étant donné que c'est une entreprise américaine, tout le monde ne jure que par Snap. Les utilisateurs, donc les clients, mais également les conducteurs. Et ce qui est frappant, c'est qu'on voit justement au volant de ces voitures beaucoup de diplômés iraniens, comme le disait justement M. Coyville, de niveau master et plus, qui n'ont pas trouvé d'emploi dans leur voie et qui se retrouvent justement à soit faire le chauffeur taxi toute la journée, sauf que au contraire de ce qui se passe en France, ils n'ont pas besoin de permis de VTC, ça a été un coup de maître de la part de Snap, et de l'autre côté, des gens qui complètent justement leur salaire quotidien. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette entreprise en Iran a mis au chômage beaucoup d'agences de taxi, ce qu'il y avait en Iran, ce qui était un véritable empire, mais que, et ça c'est encore plus intéressant, les gardiens de la révolution, cette armée, mais qui contrôle une grande partie de l'économie iranienne, dont les anciens généraux contrôlent une grande partie de l'armée iranienne, voyant Snap sortir son épingle du jeu, au lieu justement de la réprimer, et vont l'englober, l'englober et c'est aujourd'hui donc d'une certaine manière la racheter, en tout cas racheter une certaine partie de ses parts via une société de télécommunication qui leur appartient et qui permet justement de mieux contrôler cette application.
Soulever le couvercle de la cocotte minute pour pas que ça explose. Néanmoins, la conséquence des sanctions américaines, c'est le retour. Enfin, il y avait déjà de l'inflation, mais là, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ça veut dire quoi l'inflation au quotidien aujourd'hui en Iran?
Regardez-nous, comme les gens sont sensibles aux questions de pouvoir d'achat ici à nous. Et nous, je veux dire, c'est à quelques dizaines de centimes, le litre d'essence, etc. C'est la panique. En Iran, ils ont encaissé. Donc, l'inflation avait été ramenée sous Rouhani. Elle était à 35% sous Ahmadinejad. Elle est ramenée à moins de 10% avec Rouhani. Et là, elle est partie en quelques mois, depuis début 2018, elle était à moins de 10%. Là, les derniers chiffres de la Banque centrale, c'est 35%. Comment vivre avec 35% d'inflation? Donc, c'est catastrophique pour notamment ceux qui souffrent en Iran, c'est les plus pauvres, on va dire.
خال لبات باد سوا ایش و نوش توی نوا منو محتاج طبیبی سم شبا تو حبیبم شو عزیزم طبیبم شو تو حبیبم شو عزیزم طبیبم شو وای ساقی یا می هی 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 بریز بنویس هر که نرخصت گل مندی بنویس
Quelle vie quotidienne en Iran? Armin Arefi, vous êtes notre invité avec l'économiste Thierry Coville. Armin Arefi, vous êtes journaliste franco-iranien. Vous signez Un printemps à Téhéran, la vraie vie islamique, la vraie vie en République islamique, pardon.
C'est pas si islamique que ça d'ailleurs.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on va le découvrir pas à pas dans l'émission. Et vous signez aussi le programme musical. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Alors, c'est Soria du rappeur-chanteur Sassy Mannequin, qui a commencé en Iran avec des chansons de rap qui n'étaient pas forcément appréciées des autorités et qui, d'une certaine manière, après avoir été arrêté après un concert dans l'île de Kish, a été contraint de s'exiler. Et depuis, les Émirats Arabes Unis qu'il fait danser et chanter ses compatriotes. Moi, cette chanson, pourquoi je l'ai choisie? Parce que c'était au volant de la voiture d'une de mon ex-petite amie en Iran durant mes 3 années sur place et elle effectuait, donc elle mettait la sono à fond car la voiture est une sorte d'espace privé, un espace privilégié en Iran où le foulard de cette dame tombe à Téhéran d'ailleurs ou dans d'autres grandes villes sur les épaules, où elle effectuait sur les bases de cette danse une danse que je qualifierais de danse assise, en bougeant ses bras, en bougeant y compris jusqu'à son postérieur sur les sièges, et c'est vrai, et du coup en passant des nuits endiablées à Téhéran. Donc ça, c'est le cas dans la voiture qui est un véritable espace, comme je vous l'ai dit, pour la population, mais également dans des soirées. Ouais. J'ai effectué, moi français, des soirées en Iran comme jamais je n'en avais vu.
C'est ce que j'allais
France.
Dire, on déprime beaucoup mais on fait beaucoup la fête.
L'Iran est un peuple de fête, c'est un peuple de sentiments. Dans son quotidien justement il déprime beaucoup, il est face à beaucoup d'interdits, mais ce serait faux de penser que l'Iran c'est un pays noir, c'est un pays plein de couleurs, c'est un pays justement avec une population vivace. Et pour reparler justement des soirées, moi j'ai vu par exemple, j'étais invité le deuxième jour de mon arrivée par mon ami dans son appartement, cinq de ses copines arrivent de la ville conservatrice de Macha, donc je m'attends à voir des femmes en foulard et même certaines en tchador, c'est ce que je vois, elles arrivent, sauf qu'elles partent dans la chambre à coucher, elles en reviennent en mini-jupe, ultra maquillé, et c'est vrai qu'on passe. Mon ami sort les bouteilles de vodka qui sont officiellement interdites en Iran, sauf qu'on en trouve partout. C'est certes beaucoup plus cher, mais l'Iran est un pays de contrebande, on trouve de tout en Iran, mais c'est plus cher. Et puis on passe une soirée de folie. Bon, les détails sont dans le livre, mais ce que je veux dire par là, c'est que.
Il y a beaucoup de détails dans le livre, en effet. Mais est-ce que ça, ces situations-là que vous décrivez, Armin Arefi, c'est pas, dans le fond, une certaine jeunesse huppée des quartiers nord de Téhéran?
Pas seulement. C'était peut-être le cas il y a une quinzaine d'années, en 1980. Lorsque cette jeunesse a réélu massivement, l'ancien président réformateur Khatami. Mais moi, des fêtes, j'en ai fait un peu partout dans le pays et surtout rencontrer des gens. Je me rappelle à Chirac, chauffeur de taxi à qui je parlais, y compris de cette soirée-là. Il me disait, si tu veux, j'ai une bonne adresse, alors que c'était quelqu'un qui venait d'un milieu plutôt modeste, mais qui me disait justement qu'il avait une petite amie alors que c'est interdit en Iran, et qu'il connaissait des endroits dans des parcs, notamment à côté du tombeau du grand poète à Fès, où il était possible de boire du vin maison, alors que c'est interdit en Iran. Mais beaucoup de familles font leur propre vin pour justement échapper à ce quotidien et même évacuer en fait cette frustration. C'est ça le problème, c'est qu'en France, on peut boire des verres, boire des coups, faire de la fête, mais en Iran, pourquoi ces fêtes sont aussi surprenantes et aussi extrêmes dans ce qu'elles montrent? C'est justement parce que les Iraniens, la population iranienne, a envie d'évacuer cette frustration. C'est pour ça qu'il n'est pas. C'est pas un hasard en Iran, justement, de voir beaucoup de jeunes avoir des relations sexuelles avant le mariage. C'est même plutôt facile, mais justement, c'est une sorte de réponse et au mollah et aussi aux traditions familiales toujours présentes.
Frustration et difficulté matérielle. Quel est l'état des inégalités, Thierry Coville, aujourd'hui en Iran? Il y a moins de pauvres, malgré tout.
Oui, alors c'est... Si vous regardez les indicateurs, tout ce qui est la grande pauvreté, la pauvreté, elle a plutôt diminué depuis la révolution, parce que je comprends aujourd'hui beaucoup de colère en Iran, mais le gouvernement iranien, le régime, comme on l'appelle comme ça, il a fait beaucoup d'investissements dans les infrastructures, dans l'éducation, on vient d'en parler. Cette modernisation de la société iranienne, moi, comme je dis souvent, elle vient pas de nulle part. On n'a jamais vu dans le monde une société se moderniser tout d'un coup. L'Iran est passé de 7 enfants par femme à 2 enfants par femme. Tout ce que décrit Armin Arifi.
La contraception,
il y a des plannings familiales étaient mis en place dans les années 80.
Les universités payantes,
oui, les,
bah alors, ou
les,
pas,
les universités sont pas toutes d'extraordinaire qualité, mais il y a eu un effort massif pour envoyer tous ces jeunes iraniens dans les études. Donc, je vous dis,
gratuite ou pas?
Alors, gratuite dans l'université publique, il y a une université semi-privée, l'université Azad, où ça coûte très cher. Donc effectivement, on peut retrouver des inégalités dans l'éducation supérieure. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a jamais eu autant de personnes en Iran. Le niveau moyen d'éducation n'a jamais été aussi élevé. Vous allez dans les petites villes en Iran, on est frappé du niveau de modernité, les infrastructures urbaines, etc. Donc ce que je veux dire par là, cette grande pauvreté, pour répondre à votre question, elle a sans doute diminué depuis la révolution. Les inégalités, c'est compliqué, mais je viens de lire un rapport de la Banque mondiale qui montre les inégalités ont plutôt diminué en Iran, mais je trouve intéressant, et je me pose la question sans arrêt, c'est que pourquoi la perception est si différente en Iran? Si vous dites ça en Iran, les gens quasiment, excusez-moi, mais ils vont presque ils vont dire, pour parler poliment, ils ne sont pas d'accord avec vous. Parce qu'il y a un vrai manque de confiance en Iran dans les institutions. Donc dès qu'on dit une chose positive comme ça, de ce type-là, tout le monde vous tombe dessus en disant « oui, tu y connais rien », etc. Alors que c'est les indicateurs qui disent ça. Donc, y a
Les statistiques économiques en Iran sont fiables?
Ah oui, là, mais je vous parle même de ça, la baisse des inégalités, c'est un indicateur produit par la Banque mondiale. Donc bon, voilà. Et la grande pauvreté, je connais un économiste, Salih Isfahani, qui a travaillé toute sa vie là-dessus. Lui, bon, il a fait beaucoup de travaux là-dessus. La pauvreté a diminué depuis la révolution. Mais il y a un problème de manque de confiance en Iran dans les institutions et dans les statistiques officielles.
Et c'est vrai que ce manque de confiance est renforcé par toute cette classe qui s'est enrichie à l'époque d'Ahmadinejad, mais également à l'époque de Rouhani, ce qu'on appelle les Horozodés, fils de Mollah.
C'est la question que j'allais vous poser. Qui sont les riches aujourd'hui en Iran? Vous brossez le portrait d'un ou deux start-upers, mais ce n'est pas ça qui fait le gros de l'économie.
Alors déjà, en Iran, on peut faire beaucoup d'argent si on a une mise de départ, parce que justement, c'est un pays sous sanction, parce que c'est une société justement de 80 millions d'habitants qui consomme énormément. Maintenant, ceux qui sont dénoncés, dont l'enrichissement est dénoncé par la population, c'est justement ces fils de dignitaires. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gardiens de la révolution qui tiennent une partie importante de l'économie grâce à l'accès préférentiel dont ils disposent en Iran de par leur poste militaire ou leur ancien poste militaire. Et c'est vrai que l'on voit, par exemple, moi ce qui m'a frappé, on voit des voitures européennes de marque électrique, c'est-à-dire des voitures de sport électriques qui coûteraient ici, je crois, à peu près 600 000 euros. On les voit en Iran, sauf qu'il n'y a pas les bandes pour les recharger. Et c'est vrai que beaucoup de fils d'eux ont défrayé la chronique de fils d'ayatollah, de fils de dirigeants, de fils de grand de la révolution par leurs frasques, par leurs accidents, alors qu'effectivement il y a un sentiment de la population, il y a un sentiment, un manque de confiance et un sentiment de paupérisation. Il ne faut pas oublier que les gens qui ont manifesté il y a un an, ce n'étaient pas les gens qui manifestaient il y a 10 ans pour plus de liberté, c'était les classes populaires, donc officiellement la base du régime, qui manifestaient parce que des dizaines et des dizaines d'entreprises mettent la clé sous la porte tous les jours en Iran. Et c'est ça, je pense, le véritable défi pour le régime, c'est-à-dire qu'on a une population moderne, une base sociale du régime qui s'est paupérisée, et c'est donc le pouvoir en Iran, le régime, qui doit répondre à ça. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'heure où ce sont quand même les Américains qui, contre toute logique et toute attente et contre, en violation du droit international, se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien et ont sanctionné l'Iran, quand on demande aux Iraniens, oui, c'est quand même difficile, Trump, moi venant de France, je me dis, oui, je suis désolé, oui, le président américain, les Occidentaux n'ont pas respecté leur parole sur le nucléaire, ils me disent, mais le problème, ce ne sont pas les Occidentaux, au moins Trump, lui, pense à sa population, c'est America First, c'est pas le cas de nos mots-là, et ça, c'est quand même, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est-à-dire qu'on arrive à une vision limite caricaturale des activités de la République islamique, de la gestion des dirigeants de la République islamique, mais je pense que c'est le fruit de 40 ans de frustration et de propagande qui a été mal gérée par ce régime.
Allez, on poursuit avec votre programme musical, Armin Arefi, et bien sûr, on va parler du mariage des femmes de la famille.
پاکینده شده مست و خراب تو ببین این دل ناب و تو گود زدی بردی وقتش دیوونه بشم به سیم آخر بزنم وقتشه که شمارت رو بگیرم و زنگ بزنم نمیتونه سهر کنه رامو کسی جلو دارم نیست مثل تو یکی یه دونه آخه تو این عالم نیست حالیم نیز یالا پاشو بیا پیش من حالا اون ناز و کرشم رو ببینم مالا جادو میکنی والا چشمون سیاحت کش مارا یالا پاشو بیا پیش من حالا اون ناز و کرشم رو ببینم مالا جادو میکنی والا چشمون سیاحت کش مارا
La vie quotidienne en Iran aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. Bien sûr, vous pouvez intervenir, poser vos questions via les réseaux sociaux, notamment le WhatsApp 33 1 84 22 71 71. On est en compagnie Thierry Coville, économiste spécialiste de l'Iran, et Armin Arefi, vous signez en tant que journaliste franco-iranien Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ?
Alors c'est une chanson qui s'appelle Moi Pichouni d'un auteur iranien dont je vous avouerai que j'ai oublié le nom, mais le plus important, Hujushmand, exactement, voilà ce qu'il lui dit à la fin, il dit Hujushmand. Et moi, pourquoi je l'ai choisi ? Parce que cette chanson, c'est sur cette chanson qu'une iranienne a dansé sans foulard, avec un pantalon très serré et une espèce de top qui faisait qu'on voyait son nombril sur Instagram, un réseau social qui n'est pas censuré en Iran, qui est utilisé et par les autorités pour leur communication politique et par les entreprises pour faire de la pub et par les Iraniens pour partager leurs selfies, mais également pour draguer. Et on a cette jeune femme qui a été extrêmement suivie en Iran en diffusant ses photos et ses vidéos, surtout de danse, sur ce genre de musique. Malheureusement, étant donné qu'elle a fait le buzz, car le buzz existe en Iran, et peut-être même parfois plus qu'en France, pour des questions peut-être plus intenses et profondes, et cette Iranienne a été arrêtée du jour au lendemain par les autorités iraniennes. Il ne s'agit pas là du gouvernement, mais des factions les plus conservatrices qui contrôlent les services de sécurité en Iran. En Iran, on n'a pas un pouvoir, on en a de multiples et souvent parallèles. Ils l'ont arrêtée et puis ils ont contraint cette jeune femme qui s'appelait Mohedeh à venir témoigner à la télévision. Donc on imagine ce qu'elle a dû subir en prison. Souvent, il s'agit de torture, pour dire qu'elle présente ses excuses à la République islamique, au peuple iranien, et qu'elle a été trompée. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça témoigne de cette vitalité de la population iranienne, notamment en raison de ces lois. Moi, c'est ce que je raconte dans le livre, j'ai rencontré, c'est ce qui m'a vraiment fasciné, des iraniennes qui jouaient du Radiohead à la guitare en pleine rue. J'ai rencontré justement...
Mais pas qui chantent. Hein.
Comment ? Et pas qui chantent. Alors, justement, il y a de cela 5 jours, il y a eu un concert, car Sourohani, il y a une multiplication des autorisations données à la jeunesse pour jouer des chansons, et pas que des chansons traditionnelles iraniennes, mais des chansons pop occidentale. Et au sommet de la tour Milad, construite en Iran, il y a 15 ans, il a eu lieu un concert pop avec une guitariste donc, iranienne au foulard un peu tombant. Et au beau milieu du concert, le chanteur s'est laissé aller à passer le micro à cette femme. Et là, c'est interdit, cette femme à chanter.
Interdit pour les femmes de chanter en public. En
exactement, depuis le début de la révolution. Sauf que, alors qu'encore une fois, nulle part c'est inscrit dans la loi en Iran, mais c'est une interprétation de la part des ayatollahs chiites en Iran. Cette femme a chanté, le public était enchanté, a commencé à filmer la scène. De fait, les organisateurs qui ont pris peur ont décidé de couper son micro, et c'est là que le chanteur lui-même est venu tendre le micro, car il était content et toute la foule a applaudi. Sauf que il y a des lendemains qui déchantent en Iran et des lois très rétrogrades. Pour l'instant, cette star en Iran pop, je parle de l'homme, a vu tous ses concerts être suspendus par les autorités. Donc ça montre bien justement ces changements en cours en Iran, l'adaptation des mollahs et des autorités aux mains des durs en Iran, qui sont obligés de parfois lâcher du lest, mais qui, quand il faut frapper, frappent. Et on a également cette analyse qui est véritable, qui est véridique pour ce qui est du voile. Depuis 2 ans en Iran, on voit des femmes oser courageusement se dévêtir en public, ôter leur voile. Certes, il s'agit d'une minorité, ça a été une campagne qui a été lancée depuis l'étranger par Massia Alinejad, une journaliste iranienne, mais ça a fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux. De fait, les autorités iraniennes ont été obligées, qui au départ ne voulaient pas admettre cette réalité, ont été obligées de sévir en condamnant à de lourdes peines les contrevenantes et surtout en emprisonnant leur avocate, notamment Nasrin Sotoudeh, qui est une des plus grandes et illustres avocates iraniennes, lauréate du prix Sakharov.
Armin Arefi, vous parlez dans votre livre Un printemps à Téhéran, évidemment de la drague, des divorces, beaucoup de célibataires dans ce pays, beaucoup de divorces, beaucoup de gens malheureux en amour finalement, mais là aussi, difficile d'avoir des statistiques et de comparer avec d'autres pays. En tout cas, c'est un pays qui pratique encore la dot, donc c'est compliqué aussi pour les mariages. Il y a des mariages blancs. Là, c'est une pratique aussi un peu particulière pour vivre ensemble alors qu'on n'est pas...
Le mariage blanc qui n'a rien à voir en fait et qui est aussi un signe de la vitalité de cette société. Pourquoi ? Parce qu'en Iran, il faut savoir déjà que je crois qu'une iranienne aujourd'hui peut se marier à partir de l'âge, selon d'après la loi, de 13 ans. C'était 9 ans à l'époque. Sauf que la réalité est beaucoup plus, je dirais, contrastée dans le sens où je crois qu'aujourd'hui l'âge moyen est d'environ 25 ans pour ces dames, 28 pour les hommes.
Faut trouver un emploi pour pouvoir s'installer aussi.
Il y a aussi on parle de la modernisation de la société, enfin, les femmes iraniennes qui veulent d'abord faire des études et qui ne veulent pas du tout d'un mariage forcé, en gros, l'idée, je fais ce que j'ai envie de faire, etc. Donc on est face aussi à une des conséquences de la modernisation des esprits.
Pour revenir justement, oui, au mariage blanc, ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, comme le disait M. Coville, il y a les lois. Pas de relation sexuelle avant le mariage, et un mari est derrière, vous faites ce que vous voulez. Sauf qu'il y a la réalité, aujourd'hui, une majorité d'Iraniens justement font des études. Les Iraniennes, ça il faut le rappeler, sont majoritaires à l'université. Au départ, il y a également ces traditions
pas
familiales.
Partout, pas dans les universités d'ingénierie, par exemple.
Oui, mais dans l'université.
Enfin, la moitié.
Mais donc ces femmes veulent avoir un petit ami, et beaucoup de femmes aujourd'hui dans les villes du pays, l'Iran est majoritairement citadin, ont un petit ami, et c'est pareil bien sûr pour les garçons, ont cette possibilité de rencontrer le sexe opposé grâce aux applications. Avant c'était via la drague en voiture ou même en pleine rue, et refusent de, comme le disait Thierry Coville, le mariage forcé, donc le joug et des autorités islamiques et de la famille. Et ce mariage blanc, c'est quoi ? C'est une union, une sorte de cohabitation réalisée par les couples. C'est un nombre grandissant de couples qui ont recours à cette pratique interdite en Iran. Sauf que ce qui est très intéressant, c'est qu'elles s'émancipent en faisant cela des autorités, mais surtout de leur famille. C'est-à-dire qu'elles le font dans le plus grand secret. Les familles, toutes réformatrices qu'elles soient et modernes, n'acceptent pas qu'une Iranienne ne se vive sous le même toit d'un garçon sans être marié. Sauf que c'est une pratique qui a cours aujourd'hui en Iran, une pratique grandissante et qui montre encore une fois de cette vitalité, parce que les mollahs, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Oh non, non, ça c'est haram, ce n'est pas halal, donc c'est illégal, c'est impur en islam. Nous vous proposons une solution, le mariage temporaire, c'est-à-dire se marier pour une durée de 1 heure à 99 ans, sauf que les Iraniens n'en veulent pas. Ouais. Ils leur disent « Non, ça c'est une forme légalisée de la prostitution, nous voulons choisir nos maris. » Et c'est vrai, et ça là-dessus, on a une société qui va de l'avant et des mollahs qui se retrouvent
paradoxal. Alors écoutez maintenant le témoignage de Soudeh Rad, qui est militante iranienne, née 2 ans après la révolution islamique, à 38 ans. Elle est exilée aujourd'hui à Paris. Elle milite pour les droits des femmes et des minorités sexuelles LGBT, avec 26 000 abonnés sur sa page Instagram. Elle a étudié et grandi entre l'Iran, l'Autriche, la France, et Charlie Dupiot l'a rencontrée chez elle à Paris.
Je suis allée à l'université en Iran. J'avais 18 ans et je me suis aussi mariée en fait en Iran à l'époque parce que j'étais amoureuse et il n'y avait pas de choix pour être avec mon amour de l'époque que me marier avec lui. On était heureux à se marier, mais ce mariage a duré 5 ans. Je pense que c'était déjà après 6 mois qu'on était ensemble que je savais que ça allait plus. Donc ce mariage aussi m'a beaucoup appris. Il y avait les scènes de violence conjugale, il y avait plein de violences dans ce mariage.
Donc vous avez été victime de violence.
Il y a un jour que j'ai décidé, je ne voulais plus être la victime de ce mariage, la victime de la société. Je voulais vraiment faire tout ce que je peux pour arrêter ces violences. Et c'est là que je suis devenue militante féministe. Moi, je n'avais pas de droit. Je ne pouvais pas demander le divorce, c'était à lui de demander, sinon j'allais perdre beaucoup de temps, comme j'ai fait.
Au bout de 5 ans, vous avez réussi à divorcer ?
Oui, et je veux aussi dire que j'avais pas de connaissance de sexualité du tout. Parce que pour moi, la sexualité, c'était hétéro, c'était on se marie, on vit avec quelqu'un, amoureux, etc. etc. Et maintenant, je vous dis, je suis bisexuelle, et même, ça m'a pris quand même des années à comprendre que bisexualité ou homosexualité ou être trans, c'est une chose qui existe, qui est normale, qui n'est pas du tout quelque chose à punir, à rejeter, mais... C'est en mars 2008 que j'ai décidé de quitter l'Iran pour toujours. J'ai bien compris ce qui me dérangeait le plus en Iran, c'était pas l'économie, c'était pas voir la pauvreté, c'était vraiment le sexisme qui m'agaçait, qui me frustrait. Donc je suis rentrée en France, j'ai commencé à refaire un master en organisation et management, master recherche à Paris 2, et j'ai commencé à militer un petit peu avec le mouvement féministe français. J'allais dans les manifestations, mais je n'osais pas parler. J'absorbais tout, je lisais plein de choses, je ne comprenais pas, mais je lisais. Et finalement, c'était en janvier 2009 où j'ai commencé à militer en persan. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire en persan, j'ai commencé à militer avec les femmes iraniennes. Et après, à un moment donné, moi j'ai compris que moi j'étais encore l'étrangère dans le mouvement féministe parce qu'il y avait beaucoup de militantes qui venaient d'Iran. Et c'est toujours un peu conservateur par rapport à la sexualité. Et il y avait des choses que je ne comprenais pas pourquoi on n'en parle pas. J'ai utilisé l'Internet. La société iranienne, c'est en Iran, mais c'est aussi partout sur Internet. C'est par le biais de technologie, en fait, qu'on peut mener ce changement, surtout parler avec les jeunes, la génération qui est plus jeune que nous. C'est là, en fait, que j'ai eu l'idée de lancer une application qui s'appelle Hamdam. Hamdam veut dire compagnon pour suivi des règles, santé des femmes et surtout santé sexuelle.
Et vous avez lancé Hamdam, donc cette application, en mars 2017, mm-hmm. pour notamment répondre à des questions de filles, mais aussi de garçons iraniens. Quelles questions est-ce que les filles, notamment, vous posent sur leur sexualité, sur leur corps ?
Est-ce que c'est normal que mes seins, il y a un sein qui est moins grand que l'autre ? Il y a beaucoup de questions sur la sexualité pendant les règles. Il y a plein de questions sur la normalité. Qu'est-ce que c'est normal ? Je veux parler avec cette jeune fille de 13 ans qui a ses règles, mais qui ne peut pas demander à sa maman, comme moi je ne pouvais pas, qu'est-ce qui se passe ? Et il y a tellement de tabous, renforcés encore avec l'idéologie de gouvernement chaque jour même, qu'il n'y a aucun endroit à poser ces questions. Il n'y a pas de mots pour pouvoir poser ces questions. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui dit ben, ils peuvent demander à Google. Mais avec quels mots ? On ne les connaît pas. Donc quand on voit dans la société iranienne que le corps des femmes, l'existence de femmes est voilée, doit être invisible dans leur lieu de travail, à l'université, même chez elles, moi je pense que la question de sexualité c'est encore plus important parce que ça a à faire avec le corps. Et si je n'ai pas le droit de décider pour mon corps, de connaître mon corps, je ne peux plus avancer.
Comment votre famille voit ça, cet engagement-là, et notamment cette question de votre bisexualité ?
Bon, j'ai fait un coming out plusieurs fois pour mes parents. Tous les deux, ils ont fait un travail énorme à ne pas voir et puis à ne pas accepter. Donc ma mère ne voit même pas. Je vis avec une femme. Nous avons une chambre, on partage tout, mais... Mes mamans la voient comme une colocataire. Et puis, mon père, il a dit très franchement qu'il était homophobe et c'était sa liberté d'expression. Et ça, après des années qu'il me voit avec ta femme, qu'il lit tout ce que j'écris, qu'il voit ce que je fais, il attend le jour où je me marie avec un homme, que j'ai des enfants.
Et alors malgré ça, malgré ce regard de vos parents, vous continuez à vous battre, à donner cette image aussi de vous publiquement.
Je crois qu'on a besoin des personnes comme moi, qui sont là à parler de tout ce qu'ils sont, où ils sont. Et moi, j'ai laissé tomber le combat chez moi. Mais encore plus important et encore plus sensible et urgent pour moi, c'est dire et montrer à ces personnes qui habitent en Iran sous la répression et oppression, leur montrer que pour la personne trans, lesbienne, gay, femme même, leur existence, c'est la résistance.
Et l'appli Armdam, lancée par Soudeh et Rad pour informer les jeunes Iraniens sur la sexualité, a été téléchargée plus de 245 000 fois depuis son lancement il y a 2 ans à partir de la France. Donc, droit des personnes homosexuelles aujourd'hui en Iran, qu'en est-il, Armin Arefi?
Écoutez, officiellement, c'est la peine de mort. D'ailleurs, il y a eu des homosexuels qui ont été pendus en Iran. Maintenant, contrairement à ce qu'annonçait Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien président ultra-conservateur iranien à New York, c'est-à-dire il avait dit qu'il n'y avait aucun homosexuel en Iran, la réalité est tout autre. Et d'ailleurs, il est étonnant de noter, moi je me souviens d'un témoignage d'un de mes très bons amis qui est homosexuel, et qui me disait quand il est arrivé en France, car il a préféré quitter l'Iran pour des questions politiques, il m'a dit « Je ne comprends pas, les codes sont complètement différents, c'était pourtant si simple en Iran, car d'une certaine manière, beaucoup d'hommes en Iran face à l'impossibilité, en tout cas à l'époque, de sortir avec des filles en raison du poids de la société et des interdits, vont plus facilement vers les hommes. D'ailleurs, au passage, en témoignage de leur amitié, il n'est pas rare, on aperçoit même souvent deux hommes en Iran se donner la main en gage d'amitié. Mais voilà, c'est un peu tout ce que toutes ces questions.
Alors, plus surprenant, la transidentité, c'est-à-dire le fait de changer de sexe, est désormais tout récemment reconnu en Iran et l'opération chirurgicale est autorisée.
Alors c'est pas si récent que ça, ça date justement de l'Ayatollah Khomeini, donc quand même je crois le milieu des années 80, où un homme est venu la voir et lui a fait part justement de sa volonté de changer de sexe, considérant ceci comme une maladie. L'Ayatollah Khomeini justement a accepté et a légiféré en ce sens pour que le droit des personnes à changer de sexe soit reconnu en Iran. Effectivement aujourd'hui, une part du coût de cette opération est assurée par les autorités. Maintenant, donc l'Iran est le pays justement avec le plus d'opérations, je crois, derrière la Thaïlande. Donc c'est étonnant dans une république islamique. Maintenant, il ne faut pas oublier que beaucoup d'homosexuels en Iran, parfois pour éviter de se retrouver pendus ou même le regard pesant de la société, n'ont d'autre choix que d'aller vers cette opération, ce qui est quand même, je trouve, assez terrible. Donc c'est quand même très, très paradoxal.
Comment finalement est perçue cette jeunesse aujourd'hui, Thierry Coville? Comment sont jugés les jeunes, notamment par la génération qui a mis le chat dehors, qui a fait la révolution islamique? Est-ce que ces revendications de liberté individuelle, de droit à une intimité choisie, à un bien-être matériel, comment c'est perçu ça par les anciennes générations?
Oui, c'est intéressant parce que beaucoup de choses, en fait, ce qui se passe au système politique, système société iranien, en fait, se passe déjà dans la famille. Juste pour une petite anecdote, mais j'ai un copain en Iran qui m'avait dit, il y a plus de 10 ans, qui m'avait dit, tu vois Thierry, envoyer un dur faire des diatribes sur l'Ouest et l'agression occidentale nouvelle valeur, il dit, il est en train d'engueuler ses enfants. Parce que ces problèmes dont il parle, en fait, il les vit tous les jours avec ses enfants qui ne sont pas d'accord avec lui. Pour répondre à votre question...
L'Occident est à la maison, l'Ouest
oui,
aussi.
Ben oui, l'Occident, il est sur Internet, etc. Non, mais pour répondre à votre question, moi, je fais une enquête sur les emprises familiales. Et c'est très intéressant ce qu'on voit. C'est qu'on voit cette évolution dont vous parlez. Donc, j'entendais souvent, les jeunes veulent tout de suite maintenant, ils ne veulent pas attendre. Nous, on a attendu pour gravir les échelons. Ça, on l'entend tout le temps. Par contre... Je trouve intéressant avec l'Iran, c'est que ce n'est pas non plus un bouleversement total. C'est qu'on voit qu'il y a quand même un noyau dur culturel. Donc, en gros, les enfants veulent plus de place, mais ils respectent toujours leurs parents. Les aînés, dans l'entreprise familiale, voilà, on leur donne un poste à personne âgée qui ne travaille plus aussi bien qu'avant. C'est quand même, on le respecte. Donc, il y a à la fois une modernisation des mentalités. Par contre, le cadre familial tel qu'on l'a connu, il subsiste aussi encore en Iran.
Alors, que reste-t-il des grandes manifestations et de la répression aussi terrible de 2009 dans cette génération? Voici un petit rappel de ce qu'on fabriquait à l'époque dans les appartements. به هم نگاه بد نکنه
با هم دوست باشیم و دست بندازیم بوشونه های هم آها مثل بچگی ها تو دبستان هیچ کدوممونم نیستیم بیکار در حال ساخت و ساز ایران واسه این که خسته نشیم بار من خشت بذارم تو سیمان بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون به سرخی لاله نمیشه آب جو مؤذن اذان بگو خدا بزرگ بلا به دور مامان امشب واسمون دعا بخون
Minarefi, je ne sais pas si vous avez connu cette chanson clandestine composée en 2009 au moment des manifestations contre la réélection contestée du président conservateur Ahmadinejad où effectivement bon, bah, c'est une des chansons, hein, y en a eu beaucoup d'autres fabriquées dans les appartements aujourd'hui on a l'impression que la génération actuelle est loin de cette génération de 2009
Alors, il y a une génération, la génération 90 en Iran, justement, qui n'a plus peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux et qui ose justement tomber le voile, qui ose, qui vit une double vie sur les réseaux sociaux et qui même s'émancipe de ses parents. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on parle de ces manifestations quotidiennes. Alors, d'accord, on parle de ces manifestations quotidiennes qui ont lieu en Iran pour des raisons économiques. Moi, ce qui m'a frappé dans ce pays, c'est cette volonté de changement profonde, viscérale, qui est exprimée tous les jours par la population iranienne, mais qui est très mécontente vis-à-vis justement de son régime. Et je pense que c'est le principal défi aujourd'hui. On ne parle pas de révolution. Les gens demandent à leurs parents « Papa, maman, pourquoi avez-vous fait la révolution alors qu'on a eu pire ?» Et derrière, il y a eu la guerre Iran-Irak. Et le million de personnes qui sont mortes. Donc trop de sang versé. Il y a une volonté justement d'aller de l'avant avec la réforme. La question est de savoir si les mollahs vont l'accepter ou pas. Mais clairement, on a une population qui est bien... Qui est devant avec des mots là qui sont derrière, qui vont devoir s'adapter s'ils ne veulent pas connaître bientôt leur fin.
Thierry Coville, justement, cette fameuse génération pourquoi qui pose beaucoup de questions, comment va évoluer cette colère, cette frustration, cette contestation en direction de qui d'ailleurs avec un discours anti-occidentaux, un discours anti-pouvoir en place. À quoi il faut s'attendre finalement et qu'est-ce qui va être décisif pour l'avenir des Iraniens et des Iraniennes dans les années à venir ?
Je pense qu'il y a des choses positives avec cette modernisation des mentalités, même chose positive qu'ils soient matérialistes. Moi, je trouve ça très bien. Je veux dire, ils pensent qu'ils doivent réussir leur vie, qu'ils doivent vivre confortablement, ils pensent à leurs loisirs, etc. C'est très bien. Et c'est la logique de l'individu, c'est la modernisation des mentalités. Le problème qui se pose, c'est qu'on voit dans aucun exemple historique une société comme ça peut évoluer toute seule sans soutien. Donc, on a parlé, il ne faut pas exagérer non plus. Le régime a investi, participé à cette modernisation, mais il doit continuer à l'accompagner. Et je pense aussi au reste du monde, parce que on n'a peut-être pas parlé des États-Unis, mais je veux dire, prendre en otage, excusez-moi, comme ça, 80 millions de personnes et leur mettre une pression maximale, etc., on ne leur donne pas beaucoup de perspectives. Et un des problèmes aussi, c'est que le gouvernement iranien n'a plus beaucoup d'argent et risque plutôt de dépenser militairement et d'arrêter de dépenser en infrastructure. Et c'est de nouveau cette société qui veut le payer.
Merci Thierry Coville, vous êtes économiste spécialiste de l'Iran, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Merci d'être venu chez 7 milliards de voisins. Merci à vous, Armin Arefi, journaliste franco-iranien, à lire votre livre, votre récit à la rencontre des Iraniens, Un printemps à Téhéran, la vraie vie en République islamique. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr écouter toutes nos émissions en podcast sur l'appli RFI Pure Radio, sur le site internet rfi.fr, à la rubrique magazine bien sûr. Et demain, 7 milliards de voisins, ce sera comme chaque mois le rendez-vous des tchatcheuses. Trois femmes journalistes de trois continents commentent l'actualité de leur choix. Merci à vous tous, à demain les voisins et les voisines.